Bonjour à tous. On est, malgré le contexte un peu compliqué, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour écouter cette conférence call sur nos perspectives économiques et financières. Alors, c'est vrai que nous ne pensions pas revivre cette période de deuxième confinement, mais nous allons, comme pour le premier confinement, nous adapter, comme nous l'avons toujours fait, pour toujours vous informer et communiquer avec vous sur aussi bien notre vision sur l'économie, sur les marchés, sur les classes d'actifs, sur nos produits ou encore sur des sujets d'actualité divers. Dans ce cadre-là, je vous informe d'ailleurs que nous allons, dès la semaine prochaine, recommencer un peu nos cycles de conférences call sur la semaine prochaine, Nata Patrimoine et puis la gamme nordique, sur convertible ensuite, sur les dettes financières et puis un peu plus tard en décembre, sur les actions US, sur le high yield et sur les small caps. Voilà, donc un programme très chargé. Toutes les équipes sont bien sûr en télétravail et équipées pour pouvoir répondre à toutes vos questions et être surtout très présent dans ces moments où on se pose beaucoup de questions. Alors, c'est vrai, quand on a organisé cette réunion sur nos perspectives économiques et financières, on pensait aussi un peu vous faire part de nos analyses sur les résultats de l'élection américaine, bien sûr. Et malheureusement, donc on abordera sûrement la question sans pouvoir être vraiment plus précis, étant donné ce qui se passe et les circonstances d'incertitude que nous connaissons actuellement et qui vont, j'espère, être vite résolues. Je vais laisser donc la parole d'abord à Mathieu Grouès sur l'économie et les marchés, qui va essayer de tenir entre 15 et 20 minutes, et puis ensuite laisser Éléonore Bunel, qui est la responsable de toute la partie taux, qui parlera en quelques minutes, 5-6 minutes, des marchés de taux, de comment ils se sont comportés, puis éventuellement un petit peu des perspectives. Et puis Régis Béguet, son homologue sur les actions, qui fera la même chose et tiendra, essaiera de tenir en 5-6 minutes aussi. Ce sera peut-être un peu plus dur pour lui. Voilà, donc je vais laisser la parole à Mathieu. Je vous rappelle juste aussi que vous pouvez poser vos questions. Vous avez pu poser vos questions et vous allez pouvoir les poser jusqu'à la fin de l'exposé des orateurs via l'application SpeakUp avec comme numéro de salle 80 056. Voilà, Mathieu, c'est à toi. Merci.
Merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Normalement, vous avez reçu un document sur lequel je vais m'appuyer. Même si sans doute ça sera compréhensible sans le document, mais c'est vrai que regarder les courbes permet de mieux voir les choses. Contrairement aux dernières présentations, on n'attaque pas directement par l'épidémie. On a voulu remettre un peu les choses, on va dire, dans l'ordre habituel. Donc on parlera de la macro et à l'intérieur de la macro, on évoquera l'épidémie. Le premier graphique, c'est l'évolution du PIB en Chine, aux États-Unis, dans la zone euro, en prenant un niveau, on rebase à 100 au dernier trimestre de l'année dernière, et on voit l'évolution. Le constat, c'est qu'on a un rebond d'activité qui a été quand même sensiblement meilleur que ce qui était attendu. Donc à chaque fois, dans les pointillés, c'était l'estimation qui a été faite en mai. Et puis le chiffre qui est sorti, c'est la ligne continue. Et donc vous pouvez voir que zone euro, États-Unis, on pensait être à peu près à 92% du niveau de fin d'année dernière et qu'on est plutôt à 96-97%. Donc c'est ce qui fait une vraie différence. En Chine aussi, on est au-dessus, là on est même au-dessus du niveau de début d'année dernière. Donc ça c'est quand même un premier constat important, c'est que le rebond de l'activité a été quand même beaucoup plus rapide et fort que ce que anticipaient vraiment tous les économistes. C'est clairement une très très bonne nouvelle. On rappelle sur le graphique du bas, alors on a pris la consommation pour l'imager, mais qu'il y a des disparités par secteur qui sont très importantes. Sur la consommation des ménages, aux États-Unis, on le voit bien. Donc, la consommation globale, c'est la courbe bleue claire avec les carrés noirs, où on voit qu'on est encore un peu en dessous de 100. Par contre, c'est un mélange entre des services qui restent très sensiblement en dessous de 100, en dessous de 90 même, et puis des biens non durables qui, eux, sont plutôt à 105, et puis des biens durables qui sont pratiquement à 115. voilà, le rebond de l'économie n'est pas du tout homogène. Il y a des secteurs qui s'en sortent très bien et il y a des secteurs qui souffrent toujours énormément. La bonne surprise sur le rebond n'enlève pas cet aspect que c'est très très difficile, bien sûr, pour certains secteurs. Sur un des secteurs qui va très bien, au moins aux États-Unis, c'est le secteur résidentiel. On a des ventes de maisons qui, après avoir baissé rapidement pendant la crise, se sont envolées. Sur les ventes de maisons anciennes, on a battu les points hauts de 2005. Sur les ventes de maisons neuves, on n'est pas au point haut de 2005, mais il faut se rappeler que 2005, c'est une bulle immobilière en termes d'activité. Donc, le fait de commencer à s'en approcher est un signe quand même d'une très grande vigueur. Et c'est bien sûr très important et très positif parce que le secteur résidentiel américain a des effets d'entraînement toujours sur la croissance américaine et donc indirectement sur la croissance mondiale. Sur la zone euro, on a aussi un rebond qui est très fort. Alors on n'a pas de chiffres de vente de maisons au niveau de la zone euro, on n'a que les chiffres de construction qui sont plutôt un peu retardés par rapport aux ventes. Là on est quasiment revenu au niveau d'avant-crise, donc c'est aussi quand même le signe d'un secteur qui s'en sort assez bien. Sur l'investissement des entreprises, on a une confirmation de ce qui se dessinait et qu'on anticipait, c'était que l'investissement des entreprises absorberait assez bien cette crise. Sur l'Allemagne en noir, si on regarde les commandes, on s'aperçoit qu'on est quasiment revenu maintenant au niveau d'avant-crise. Il ne reste vraiment pas grand-chose encore. Et la violence du rebond est impressionnante. Et aux États-Unis, on est au-dessus des niveaux d'avant-crise et ça fait plusieurs mois, donc c'est quand même une confirmation. Et donc c'est très très positif. Ça, c'est l'investissement, on va dire, normal, hors défense et aviation. Par contre, c'est vrai que si on regarde l'aviation en dessous, là c'est catastrophique. On est sur des commandes négatives, donc on est sur des annulations de commandes plus importantes que les nouvelles commandes sur les États-Unis. Donc ça, c'est un peu le constat de l'activité maintenant. Sur l'épidémie, clairement, on a une dégradation très forte sur l'Europe, avec un nombre de cas qui a accéléré très fortement. Il n'y a pas que là, il y a aux États-Unis aussi, où il y a une accélération du nombre de cas. On l'avait souligné d'autres fois, la mortalité est quand même très inférieure à la première fois, la létalité en particulier est très inférieure à la première fois. Mais c'est vrai que voilà, la peur de voir les hôpitaux arriver à saturation a conduit en fait un certain nombre de pays à prendre des nouvelles mesures de restriction, allant jusqu'au confinement pour certains pays. Et on voit bien l'indicateur statistique de mesures de restriction qui est fait par UBS. On n'est pas revenu à la note de 8 qu'on avait dans la zone euro, mais on est... Oui, on était même pratiquement à 9 dans la zone euro, pardon, et on est quand même revenu à 6. Donc voilà, on voit cette courbe qui s'est réorientée à la hausse, ce qui bien sûr est pas une bonne nouvelle, et ce qui n'était pas dans notre scénario. On n'avait pas de boule de cristal pour savoir ce qui pourrait advenir de l'épidémie, mais on avait supposé comme scénario central pas de nouveau confinement, et on avait supposé aussi pas de vaccin. Même si on espère qu'il y aura un vaccin, on ne l'avait pas intégré parce que c'est vrai que tout d'un coup, ça modifie. Et donc, ce scénario central, là, est un peu fragilisé, au moins sur l'Europe, parce que c'est quand même un phénomène très européen, ce durcissement. Au moins sur l'Europe, c'est vrai que c'est plus négatif que ce qu'on avait imaginé. Donc, l'impact sur la croissance va être là. Donc, on va avoir une rechute d'activité à peu près inévitable. La prévision du gouvernement, c'est que on va être 15 points en dessous du niveau d'avant-crise. Donc, c'est la moitié en dégradation par rapport à avril, où on était 30 points en dessous. Mais ça reste une rechute importante. On a un petit espoir que ce moins 15 soit un peu moins que moins 15, finalement, parce que c'est vrai que, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde comment se passe le confinement, il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dur qu'avril, et même que ce qui a été annoncé quelque part, avec quand même encore beaucoup d'activités, même beaucoup de magasins qui restent ouverts ou qui utilisent des systèmes de click and collect ou équivalents. Donc voilà, par rapport à cette prévision du gouvernement, si on devait dire essayer de l'affiner, on l'affinerait sans doute plutôt vers le haut. Le graphique du bas, c'est pour montrer que sur les services, au niveau de la confiance, il y avait une forme déjà de dégradation et quelque part d'anticipation du durcissement. ralentissement qui était en cours avec des enquêtes qui rebaissaient, sans commune mesure, hein, bien sûr, avec avril. Il faudra voir, hein, les prochaines enquêtes qui seront peut-être un peu plus désagréables. Par contre, dans le secteur manufacturé, ça reste très positif avec un indicateur toujours bien au-dessus des 50 et toujours orienté à la hausse. Sur les autres zones, bah, on a plutôt des choses bien orientées, en fait, hein, toujours. Donc en Chine, on a des PMI qui continuent de s'améliorer, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, des niveaux absolus qui sont élevés. Alors c'est vrai que les niveaux des enquêtes ont, hein, peut-être moins de sens que par le passé, vu la violence des mouvements de l'économie réelle. Mais en tout cas, être au-dessus de 50 sensiblement et toujours en progression, c'est quand même un bon signe. Et aux États-Unis aussi, hein, en particulier dans le secteur manufacturier, on progresse très fortement, et dans les services, on reste à des niveaux élevés. Voilà, c'est important dans cette période difficile en Europe de garder à l'esprit que la situation européenne, déjà la situation française n'est pas la situation de l'Europe entière. L'Allemagne n'a pas confiné comme nous, et surtout la situation européenne n'est pas, on ne peut pas du tout la généraliser au reste du monde, c'est important, sinon on finit par avoir une vision beaucoup plus négative que la réalité. Sur les politiques monétaires, il n'y a pas de grand changement, on a des politiques monétaires hyper accommodantes, on sait que la BCE a annoncé qu'elle allait probablement réassouplir en décembre, donc là il n'y a pas de nouveautés à proprement parler, une intensification liée au nouveau lockdown dans la zone euro, mais donc c'est toujours un élément de soutien très important. L'aspect budgétaire, on l'avait souligné, hein, on est sur des mesures de relance qui sont vraiment exceptionnelles, extrêmement élevées, donc on est à l'équivalent de 5% du PIB, hein, au niveau mondial, donc bien plus que l'addition de 2008 et 2009. Donc ça, c'est quelque chose qui aide et qui va continuer d'aider énormément. Le durcissement sur le graphique pour 2021, c'est sur la base des éléments à aujourd'hui, mais beaucoup d'éléments vont être ajoutés, et on peut penser que finalement ce durcissement sera beaucoup plus modeste, voire n'existera pas, voire sera même, on sera peut-être dans l'autre sens. Alors c'est vrai que ça me fait une petite transition avec l'élection américaine, parce que ce qui nous aurait assuré quelque part qu'on aurait eu vraiment quelque chose de très positif encore au niveau budgétaire, c'est si on avait eu une victoire Biden avec le Sénat qui passait démocrate, où là on aurait sans doute eu un plan massif, hein, de relance, sans doute excessif. Hein, c'est important de garder à l'esprit que si on n'a pas ce plan ultra massif, c'est pas non plus si grave, parce qu'il y a quand même un peu d'excès dans les plans de relance américains quelque part, en tout cas dans celui qu'envisageaient les démocrates, en tout cas c'est notre vision des choses. Mais alors sur l'élection américaine, déjà on est quasiment certain que les démocrates ne peuvent pas avoir le Sénat, c'est peut-être 95 ou 99% de probabilité. Sur l'élection présidentielle, c'est très probablement Joe Biden. C'est pas totalement fait. C'est un peu compliqué là, puisque sur l'Arizona, il y a un peu plus de doutes, puisqu'il y avait des communications de taux de dépouillement qui étaient erronés. Et donc, toute une partie des, en particulier tous les grands réseaux télé, se basaient à un moment sur un taux de dépouillement de 98%. Qui laissait penser que la victoire était acquise à Biden, puisqu'il avait plus de 2 points d'avance, et finalement c'était une erreur. Le taux de dépouillement n'était que de 86%, et à maintenant il est de 88-89%. Donc voilà, l'Arizona n'est pas totalement joué. Hein. Si on regarde les paris en ligne, par exemple, on s'aperçoit que la probabilité implicite, c'est quand même 75%, 70% pour Biden, c'est pas 99%. Donc il y a l'Arizona qui a récemment recompliqué un peu, même si... on reste assez confiant, puisque les votes restants, c'est des early voting, comme on dit, à dépouiller en Arizona, qui sont normalement favorables à Joe Biden. Et puis, il y a les autres, il y a toujours, si l'Arizona est bien acquis, après, bah, il suffira juste de confirmer le Nevada, ou d'avoir, pourquoi pas, les autres États possibles, hein, c'est la Géorgie et la Pennsylvanie. Faut faire très attention à ne pas surinterpréter le retard, hein, par exemple en Pennsylvanie de Joe Biden, puisque comme maintenant on dépouille des early voting, en fait on a un pourcentage très élevé de ces nouveaux dépouillements qui sont en sa faveur, hein, autour de 70-75%. Et donc quand on fait nos estimations en projetant avec les tendances récentes de dépouillement, on arrive à l'idée que ces deux États pourraient basculer aussi. Donc voilà, il y a une probabilité assez forte hein, quand même que Joe Biden soit élu, mais ce n'est pas une certitude absolue à aujourd'hui. Si on retient l'hypothèse Joe Biden et pas le Sénat, ça empêchera, c'est pas le meilleur scénario si on veut des gros plans de relance, donc si on veut des gros soutiens à l'économie mondiale, mais ça empêchera pas d'avoir quand même des plans de relance non négligeables. On sera peut-être plus à 2000 milliards qu'à 3500 milliards, mais ça reste quand même des montants qui sont très élevés et qui devraient soutenir l'économie. Sur la sortie de cette crise, le plus simple, ce qu'on espère encore, c'est quand même le vaccin. Donc il y avait des petites erreurs hein, dans un document envoyé. Je pense qu'on a pu envoyer un deuxième. Il y avait une petite erreur sur à quel moment les résultats seraient présentés. Il y avait écrit AstraZeneca prochainement, alors qu'en fait c'est Pfizer qui a une possibilité assez élevée de donner des résultats dans les prochains jours. Et puis après on aura Moderna fin novembre et puis aussi avant fin décembre normalement AstraZeneca et Johnson & Johnson. Donc on n'est pas certain que les vaccins vont marcher, peut-être que tous ces vaccins ne vont pas marcher, on ne peut pas l'exclure du tout, mais on est quand même dans l'hypothèse que le plus probable c'est qu'il y en a un ou plusieurs qui vont marcher. Si c'est le cas, la diffusion ne sera pas immédiate. Hein. Les capacités de production, de toute façon, sur 2020 sont assez faibles. C'est ce qu'on voit sur le graphique en dessous. Par contre, sur 2021, on a des capacités très importantes et on pourrait imaginer qu'on arrive à un niveau de vaccination qui devienne assez significatif sur le deuxième trimestre, ce qui serait bien sûr une très bonne nouvelle et ce qui pourrait, si ça se passe bien et si c'est bien efficace, etc., quand même permettre une accélération de la confiance et de la croissance. Voilà, et donc pour essayer de résumer un peu tout ça, donc on a clairement la mauvaise nouvelle du retour des confinements qui va peser sur l'activité européenne. Faut pas trop l'interpréter, donc faut pas en tenir compte plus que nécessaire, si je peux dire. D'abord parce que ce n'est que l'Europe et que c'est quand même un niveau de confinement et de baisse d'activité qui va être très très inférieur à celui d'avril a priori. Ça modifie pas forcément l'idée qu'on avait hein, exprimée qu'on pourrait être à la fin 21 dans les pays développés au niveau de PIB d'avant crise parce que ça affaiblit forcément la fin de 2020 ces reconfinements, mais on n'est pas sûr que ça va beaucoup changer la trajectoire horizon fin 2021 qui va plus dépendre des plans de soutien et de relance. Et on pense que dans tous les cas, ça restera très fort, même si ça sera moins fort que ça l'aurait été si on avait eu le duo Biden et un Sénat démocrate. Et puis ça va bien sûr dépendre de la situation sur l'épidémie. Mais voilà, si effectivement sur l'épidémie, on a quand même des nouvelles un peu plus positives, soit spontanées, soit liées à un vaccin, on devrait pouvoir avoir une vraie accélération. Et en cas de vaccin assez rapidement, on pourrait même dépasser hein, cette prévision d'un retour à fin 21 au niveau d'avant-crise. Sur les marchés financiers, on continue de privilégier les actifs risqués. En fait, l'idée, c'est que, un peu simpliste, hein, l'idée, c'est que à un moment, on va sortir de cette crise, que cette crise pèse de moins en moins quand même sur l'activité, hein, même quand on confine, et que, en plus, on en sortira probablement à un moment, que ce soit par un vaccin, par l'immunité de groupe ou par autre chose, et que on aura un soutien d'ici là qui sera quasi illimité, monétaire et budgétaire, qu'on maintiendra l'économie à flot. Et qu'on y arrive à la maintenir à flot. On l'a constaté quand même hein, sur la période récente avec le rebond très impressionnant des PIB au troisième trimestre. Ça fonctionne très très bien et on est plutôt en train d'accentuer les mesures que de les diminuer, donc si on regarde la France par exemple. Et donc voilà, on ne sait pas à quel moment on sera vraiment sorti de ça, mais on a le sentiment qu'on en sera sorti à un moment, que d'ici là, on fera tout pour que ça se maintienne et que l'économie finalement va tenir, voire accélérera franchement quand on sortira de cette crise. Et qu'en attendant, on a des actifs non risqués qui rapportent absolument rien. On a des actifs risqués qui restent sur des valorisations qui, en absolu, sont un peu chères, mais par rapport aux actifs non risqués, nous paraissent raisonnables. Et donc, voilà, forcé de devoir faire un choix entre les différents types d'actifs qui existent, notre sentiment c'est que ce sont les actifs risqués qui, aujourd'hui, ont le plus d'intérêt et le plus de potentiel dans une vision moyen terme. Voilà, j'ai fini pour ma partie. Je passe maintenant la parole à Éléonore pour vous donner des informations un peu plus précises sur la partie obligataire.
Merci Mathieu, bonjour à tous. Alors, on va faire un petit point d'abord sur les taux, évidemment, parce que comme vous le savez, on est dans un environnement de taux bas et encore plus bas hein, depuis l'élection américaine. Pourquoi ? Parce que comme Mathieu l'expliquait, on n'a pas eu cette vague bleue, enfin, a priori, on ne devrait pas avoir cette vague bleue tant attendue, et donc un plan de relance massif qui ne sera pas d'actualité. Donc, la pression, la tension qu'on avait eue hein, ces dernières semaines sur les taux, en particulier les taux américains, finalement se retourne et on a une baisse des taux donc, qui s'accentue donc, un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on est à 0,77 BP sur le 10 ans américain et on reste évidemment négatif à moins 64 BP sur le 10 ans allemand, moins 36 BP sur le 10 ans français. Des taux également périphériques hein, qui restent encore très bas. On est proche de zéro pour l'Espagne et le Portugal sur le 10 ans. L'Italie est à 70 BP, 85 BP pour la Grèce. Donc là, on voit bien aussi qu'on a l'effet BCE hein, avec le programme d'achat qui est massif, notamment sur les souverains. Donc les taux, pas de changement, un environnement de taux très très bas. Côté crédit, donc on regarde plusieurs choses. Hein, tout d'abord les fondamentaux. C'est vrai que les fondamentaux sur le crédit ont été sous pression avec cette crise au Q2. Ce qu'on voit sur les résultats du Q3, c'est qu'ils sont plutôt bons. Donc on a des résultats plutôt bons, notamment sur les autos. Hein. On a eu des marges records en Amérique du Nord pour Ford et Fiat. Au UK, on a Jaguar qui est en free cash flow positif sur le trimestre. On a Gestamp qui est un sous-traitant auto qui a publié des marges supérieures à celles de l'année dernière au Q3. En revanche, c'est vrai qu'on a sur l'oil and gas, on a un petit peu plus de pression, notamment avec Saipem qui a déçu. Et évidemment, les compagnies aériennes qui continuent à brûler du cash et revoient leur prévision de capacité à la baisse pour l'hiver, comme vous le savez, donc après une détérioration de la demande depuis à peu près mi-août. Donc ça, c'est pour les corporates, donc d'un point de vue résultat. Ensuite, côté banque, on a des résultats aussi qui sont bons, meilleurs qu'attendus de façon générale, avec deux tendances hein, qui se dessinent, deux tendances principales, un coût du risque en très forte baisse et largement inférieur aux attentes, inférieur aux attentes par rapport au consensus, hein, et des managements qui s'attendent en gros à une amélioration sur 2020, de ce coût du risque, mais également des ratios de fonds propres qui sont encore en hausse au Q3. Donc, finalement, sur les banques, c'est plutôt bon, donc plutôt positif hein, en termes de résultats. Si on regarde maintenant les ratios de notation d'upgrade, on voit que la forte pression qu'on a eue hein, à la baisse sur les ratings des sociétés, notamment corporate, au mois d'avril et au mois de mai, c'est complètement stabilisé, a complètement ralenti. Donc, il nous reste encore hein, quelques sociétés qui sont downgradées, mais c'est devenu vraiment rien comparé à ce qu'on a vécu au Q2. Donc là, encore une fois, les downgrades maintenant sont plus limités. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis les taux de défaut. Alors les taux de défaut, encore une fois, hein, je vous rappelle qu'en mars-avril, S&P Moody's prévoyait des taux de défaut aux alentours de 10%. Finalement, elles ont revu à la baisse les taux de défaut puisqu'elles s'attendent à horizon septembre 2021 des taux de défaut, alors notamment pour Moody's, autour de 5% pour l'Europe, avec un pic en mars à 5,7%. Donc le pic de face attendu pour mars. Sachant qu'aujourd'hui, à fin septembre, on est à 3,9% de taux de défaut en incluant les loans. Donc voilà, encore une fois, des taux de défaut qui sont beaucoup plus bas qu'attendus, notamment grâce aux mesures de soutien hein, des gouvernements, les prêts garantis d'État, le report de taxes, etc., le chômage partiel. Je l'ai déjà dit, mais voilà, ça a été vraiment, vraiment positif pour les sociétés et ça a permis de limiter cette hausse de taux de défaut sur les prochains mois. Ensuite, on a la valorisation. La valorisation reste attractive selon nous sur quelques compartiments. Alors, c'est vrai qu'on a des taux négatifs sur l'Europe, notamment en Allemagne, qui entraîne évidemment sur le crédit un taux moyen, je dirais un rendement moyen proche de zéro. Hein, on est à 0,37% sur un indice investment grade, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bas. Donc pour nous, on n'a pas vraiment d'intérêt à aller sur, sur ce genre de compartiment sur le crédit. Nous, on va préférer vraiment les dettes subordonnées, donc que ce soit d'ailleurs corporate ou financière, et les dettes subordonnées additional tier 1, donc un peu plus risquées. Pourquoi ? Parce qu'elles génèrent encore environ un peu plus de 5% de rendement. Tout comme le high yield européen, on est autour de 4%. Donc voilà, en termes de valorisation, on va vraiment aller chercher les valorisations les plus élevées, autour de 4-5% sur le crédit en euros. Côté flux, on a évidemment, quand on regarde, on a eu une forte collecte hein, depuis le mois d'avril sur l'investment grade, un petit peu moins sur le high yield, parce qu'on est toujours en collecte nette négative depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que ça se stabilise sur le high yield. Là, on a vu des petites sorties sur l'investment grade récemment, donc à surveiller. C'est vrai qu'avec un rendement hein, autour de 0,3 ou 0,4, on peut comprendre qu'il y ait des sorties sur cette classe d'actifs. Après, on s'attend à ce que le high yield voit des flux entrants sur cette classe d'actifs. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, on a quand même des valorisations qui restent attractives, des taux de défaut qui finalement vont être plus bas que prévu, qu'attendu. Donc, ça pourrait faire revenir les investisseurs sur la classe d'actifs à moyen terme. Voilà, donc, pour résumer, on a un sentiment qui est plutôt constructif hein, sur les classes d'actifs crédit, notamment les plus risquées. On a bien compris que les investisseurs aujourd'hui, même s'il y a des nouveaux confinements, ces confinements, entre guillemets, sont un peu liés aussi et vont de pair avec un soutien de la part de la BCE et des plans de relance budgétaire. Donc, comme le disait Mathieu tout à l'heure, on n'est plus du tout dans la situation de mars ou avril, enfin du mois de mars. Donc, on a vraiment aujourd'hui le sentiment que cette classe d'actifs crédit peut encore performer et les spreads vont continuer de se resserrer selon nous sur les prochains mois pour revenir hein, sur des niveaux probablement d'avant-crise. Donc, constructif sur le crédit avec favoriser évidemment les crédits les plus risqués, le high yield, les subordonnées financières ou corporate et les additional tier 1 qui sont les subordonnées financières les plus risquées et qui bénéficient d'un rendement encore très attractif. Voilà, je vais laisser Régis continuer sur les actions.
Allô, vous m'entendez ?
Oui, on t'entend.
Ok. Eh bien, bonjour tout le monde. Sur les actions, on a eu un marché qui a globalement été agréablement surpris par les résultats du troisième trimestre. D'une manière générale, il est vrai que le troisième trimestre aura vu l'épidémie reculer beaucoup plus vite finalement que ce qui avait été anticipé au printemps et un niveau d'activité qui a été globalement tout secteur confondu bien meilleur que ce qui avait été envisagé au printemps à l'exception effectivement de ce qui est lié au transport aérien, au tourisme d'une manière générale qui a pu être un peu décevant. En revanche, bien l'appétit de consommation s'est transféré sur d'autres segments de la côte, notamment le luxe, l'automobile, qui se sont très très bien comportés. Même dans l'industrie, globalement, on a eu de bons résultats. Et le marché s'est appuyé là-dessus avant de se focaliser sur ce qui a suivi, c'est-à-dire les reconfinements en Europe et en France en particulier, et bien entendu les élections américaines. Alors sur la partie épidémie, on est passé à un phénomène qui est assez européen maintenant, et en particulier français, et par conséquent, c'est vrai que ça a pesé assez peu sur les perspectives de résultats, puisque la France est souvent une petite partie des résultats des entreprises, d'autant que face aux déceptions qu'on a pu avoir sur l'Europe et la France en particulier, on a eu une reprise en Asie, un niveau d'activité en Asie qui a été très 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 bon et qui reste bon, et par conséquent les entreprises, même après les nouvelles mesures de reconfinement, dans leur immense majorité, n'ont pas révisé en baisse leurs perspectives pour celles qui avaient donné les perspectives. Il y a quelques entreprises qui n'ont pas encore donné de guidance pour l'ensemble de l'année 2020, bien que nous approchions évidemment de la fin de cette année. Mais pour celles qui en avaient donné, il n'y a pas eu de révision en baisse de ces guidances malgré les reconfinements, et même, je dois le dire, il y a eu plutôt des révisions en hausse, encore une fois, parce que pour ce qui concerne les grandes capitalisations, mais en fait ça concerne pratiquement toute la cote, la partie française est une partie qui est souvent minoritaire dans leur niveau d'activité. Et puis, on a eu également de très bons résultats dans le secteur bancaire, avec des niveaux de rentabilité qui ont été bons, des niveaux de provisionnement qui ont été, on l'avait dit au deuxième trimestre de l'année dernière, très excessif par rapport à la réalité économique qu'on a vue jusqu'ici. Et donc, on a eu globalement une très bonne saison également dans ce domaine. Plus récemment, donc, il y a eu une énorme rotation sur les élections américaines, qui a été en deux temps. En réalité, d'abord, le marché a anticipé la victoire, a anticipé une vague bleue, donc dans les fin de semaine dernière et début de cette semaine, a anticipé une vague bleue avec une large victoire de Biden accompagnée d'une victoire au Sénat. Et ça, c'était positif pour les actifs risqués, pour la partie longue de la courbe des taux, donc pour le secteur bancaire et l'ensemble des activités industrielles et évidemment sensibles au plan de relance. Et puis, les résultats ont été donc tout à fait, enfin pas tout à fait à l'inverse de ce que le marché anticipait, mais en tout cas, plutôt le scénario du pire pour les actions, et curieusement, ça n'a pas du tout fait baisser les marchés. Ça a entraîné une rotation inverse extrêmement spectaculaire vers la partie croissance du marché, donc pharma en particulier, et tout ce qui est lié à la technologie qui avait pas mal faibli ces derniers jours, qui a connu un rebond très très spectaculaire aux États-Unis, et puis en Europe, des activités à duration longue, type utilities, services, etc. Alors, la logique, c'est que dans cette situation de pseudo-blocage, ou en tout cas de difficulté, les taux peuvent rester bas. Le plan de relance sera moins fort que ce que le marché avait anticipé. Par conséquent, c'est une configuration qui est à nouveau favorable à la partie croissance du marché et plutôt très défavorable à la partie cyclique bancaire du marché. Un secteur en particulier se distingue, c'est le secteur de la pharma, qui lui bien faisait pas le figure, en tout cas craignait, comme à chaque fois l'élection de Biden, puisqu'à chaque fois le secteur est inquiet à l'idée qu'il y ait l'élection d'un démocrate. En réalité, ça se traduit souvent par pas grand chose pour le secteur, mais c'est toujours un moment de tension. Et là, la configuration est presque idéale pour le secteur de la pharmacie, cette configuration où il va être d'autant plus difficile de réformer si le président et le Sénat ne sont pas du même bord. Ça provoque une situation de blocage des réformes, et c'est ce que le secteur de la pharma aime, le moins de réformes possible pour pouvoir continuer à avoir cette augmentation des prix qu'on a vu maintenant sur les 25-30 dernières années. Et à ce propos, il faut se dire que ce genre de réaction très top-down du marché sur des événements comme les élections américaines sont souvent très exagérées et ne se traduisent pas par la réalité. Si on se souvient de l'élection d'Obama, le thème c'était les business d'infrastructure, parce qu'à l'époque, en 2008, il y avait un plan de relance par l'intermédiaire des infrastructures, etc. Et tout ça ne s'est pas tellement traduit dans les faits. Il y avait de grosses inquiétudes sur le secteur de la pharmacie, qui finalement a connu une magnifique décennie. et ainsi de suite. Si on se souvient de l'élection de Trump, là encore, il y avait un petit peu une thématique value, cyclique, infrastructure, qui avait provoqué une assez forte rotation dans les deux jours qui ont suivi. Et puis finalement, le marché s'est réajusté sur de tout autres thématiques dans la suite. Il y avait aussi à l'époque des inquiétudes sur les énergies renouvelables parce que ça correspondait au discours de Trump qui était très hostile aux énergies renouvelables. Finalement, elles ont connu 4 très belles années. Il y a eu très très peu de réformes qui leur soient hostiles. Donc, je pense que le marché a tendance à surréagir à ce type d'événement. Et après, dans la microéconomie, évidemment, il y a des tas de facteurs multiples qui viennent intervenir, et donc il ne faut pas trop s'attacher à ce genre de mouvement de marché. Voilà pour ma part.
Juste, j'ai quelques remarques de clients qui n'ont pas reçu leur présentation, donc merci à ceux-là de contacter leur commercial ou leur contact chez Lazard, ou bien d'envoyer un mail pour la prochaine fois qu'ils le reçoivent bien, parce que visiblement, il y a eu quelques loupés. Alors, une première question. Selon vous, jusqu'où les actifs risqués peuvent-ils progresser? Avez-vous le sentiment que nous sommes entrés dans une phase d'exubérance dangereuse à terme?
Ça va être pour moi.
C'est plutôt pour Mathieu. Oui.
Et puis, juste derrière, je répondrai à une autre question que j'ai vue, où visiblement, je n'ai pas été clair sur un graphique. Sur les actifs risqués, je ne sais pas jusqu'où ils peuvent progresser, parce que c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est très favorable aux actifs risqués et qui est très favorable aux excès sur les actifs risqués. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où ce qui favorise un côté un peu bulle, selon nous, hein, c'est d'avoir une forme de nouveau discours. Donc là, il y a le nouveau discours sur la technologie, etc., hein, qui n'est pas totalement nouveau, mais qui marche assez bien avec les GAFA. Donc il y a une forme de concept. C'est important d'avoir un concept pour pousser les marchés à la hausse. C'est important d'avoir un sentiment d'impunité, que rien ne puisse vraiment faire mal à ce marché. Et ça, ça arrive quand vous avez des événements très durs qui provoquent une baisse et un rebond très rapide. Et qui donne donc l'impression que finalement le marché est au-dessus de ses contingences, puisqu'il suffit d'attendre quelques semaines pour rebondir. C'est ce qui s'était passé à la fin 98, par exemple, qui avait expliqué une partie de 99-2000. Et là, on a clairement ça, en particulier aux États-Unis, en particulier sur le Nasdaq. Le Nasdaq a triomphé très facilement des négociations sur le Brexit d'il y a un an, de la guerre commerciale avec la Chine, et puis finalement de la plus grande épidémie des 90 dernières années, ou 100 dernières années. Voilà, ça, c'est un élément qui se rajoute. Et puis, dernier élément qui est bien utile aussi pour faire des excès à la hausse, c'est d'avoir des autorités qui soutiennent, quoi qu'il arrive, l'économie. Et là, c'est totalement le cas, à la fois d'un point de vue monétaire et budgétaire. On a ce sentiment qu'on a un double, triple parachute qui protège. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent justifier des excès des marchés risqués. Je ne pense pas qu'on soit à proprement parler sur des vrais excès actuellement, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'alternative aux actifs risqués aujourd'hui. C'est que ça reste, pour un placement de long terme, bien plus intéressant d'acheter des actions que des obligations d'État ou que du monétaire. Je pense qu'il n'y a pas de doute possible sur une vision très long terme. Donc, il n'y a pas d'excès à proprement parler. Par contre, on peut faire un excès, et à partir de là, c'est impossible de répondre vraiment à votre question, parce que le jusqu'où, une fois qu'on est dans l'excès, il n'y a plus de limite, quoi. Donc, par définition, ça va toujours au-delà de ce qu'on imagine. Donc voilà, c'est pas une prévision que ça va se produire à tout prix, mais c'est simplement le constat que, effectivement, on a beaucoup d'éléments qui pourraient justifier dans les prochains mois ou trimestres de voir des excès sur les marchés risqués. On n'est pas vraiment dans des excès actuellement, mais on n'en est peut-être pas si loin que ça, et on ne peut pas du tout écarter que ça se produise. La question que j'ai vue là, où visiblement j'ai pas été clair, c'est...
Oui, c'est page 9.
Page 9 sur le graphique l'année 2021. Donc page 9, c'est les graphiques avec la politique budgétaire. Donc sur le graphique, en fait, on voit une relance budgétaire en 2020, c'est-à-dire qu'on a un bâtonnet au-dessus de 0 jusqu'à 5% très en 2020, donc très positif. Et on voit en 2021 que tout d'un coup, on passe à un bâtonnet négatif. Donc on passe tout d'un coup à une politique qui deviendrait une forme de durcissement, en fait. Et ce que je disais, c'est que ça, c'est en fait les estimations qui sont faites à partir des données avérées et connues à aujourd'hui. Par contre, on sait qu'on va avoir un plan de relance américain. Alors, il ne sera peut-être pas de 3500 milliards, il ne sera peut-être que de 2000, mais on sait qu'il va être là. Et donc, cet effet un peu automatique négatif en 2021, qui venait du fait que on remplaçait l'année 2020 où on a eu des mesures par une année 2021 où on n'a pas encore les mesures, quand les mesures sur 2021 vont apparaître au fur et à mesure, les calculs vont faire ressortir que finalement, 2021 n'est pas une année où on a un durcissement par rapport à 2020. Je ne sais pas si j'ai été plus clair, je l'espère. La personne peut me renvoyer un message, si je n'ai toujours pas été, je pourrais réessayer encore une fois à la limite.
Après, on arrêtera là. Ouais. J'ai une question pour Éléonore. Quel est votre sentiment sur l'évolution potentielle des taux de défaut ? Alors, tu as un petit peu répondu, mais bon.
Oui, j'ai déjà répondu à cette question, donc je vais expliquer. L'évolution des taux de défaut, nous, on s'attend à encore quelques défauts, mais c'est vrai que le pic, pour nous, le pire est un peu derrière nous, puisqu'aujourd'hui, on est à 3,9 sur les taux de défaut, selon Moody's. À fin septembre, on attend les chiffres d'octobre, là, donc probablement qu'on est un petit peu plus élevé. Le pic de Moody's est attendu à 5,7. Après, avec une baisse les mois qui suivent pour atteindre 5% en septembre. Nous, on est un petit peu moins pessimiste qu'eux. On s'attend plutôt à, on va dire, entre 4,5 et 5% de taux de défaut. Donc, un petit peu moins qu'eux par rapport à l'horizon septembre. Après, ça ne joue pas à grand-chose. Hein, ça joue à 0,5 ou 1%. Mais voilà, en tout cas, on est vraiment loin des taux de défaut attendus qui étaient cités en mars-avril cette année. Des taux de défaut qui vont continuer légèrement à monter, mais on arrive au pic là. Et d'ailleurs, le pic de mars correspond bien au un an après le fort écartement des spreads qu'on a eu. En général, on a le pic des taux de défaut un an après. Donc on arrive à ces moments-là, en mars 2021, ça sera probablement le pic. Voilà.
Merci. Une question pour Régis, comme ça tout le monde. Value versus croissance, toujours une question d'actualité ou bien un débat du monde d'avant?
Oui, c'est plus que jamais d'actualité, encore une fois, puisque la rotation a été extrêmement impressionnante sur cette nouvelle donnée politique aux États-Unis qui, encore une fois, empêche d'envisager un plan de relance qui soit suffisamment massif pour quantifier la courbe des taux et entraîner avec elle l'ensemble des cycliques et des valeurs financières. Donc on est à nouveau effectivement dans une situation qui est favorable aux valeurs de croissance par l'intermédiaire, encore une fois, de la perception du marché que le marché a de l'avenir de la courbe des taux. Maintenant, ça n'est pas parce que le marché a cette perception aujourd'hui que c'est effectivement ce qu'il va se passer. Encore une fois, les raisonnements top-down, en particulier basés sur la politique, qui est par définition difficile à anticiper et difficile à lire, s'avèrent souvent faux à terme.
Ok, merci en tout cas à tous pour votre présence. Merci aux orateurs. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine conf-call de la semaine prochaine. Voilà, à très vite, à très bientôt. Au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.